Woods versus Wasserman. Lundi 28 juin 2021, Carroll Street, Brooklyn. Comment un corps peut-il contenir autant de larmes? Les deux Johanna pleurent et la même pensée leur est venue en même temps, autant de larmes. Ils sont cinq dans le grand atelier d'Abby Wasserman, au milieu des croquis et des gouaches. Les psys du FBI maladroitement juchés sur des tabourets hauts, les deux Johanna dans un fauteuil et un vieux canapé, avec un Abby hébété qui ne trouve pas de mots. Sans réfléchir, le dessinateur s'est assis à côté de sa Johanna, et désormais, il lit la détresse dans le regard de l'autre. Cette femme aussi, c'est celle qu'il a serrée dans ses bras voici 3 mois à la descente du Paris-New York. Il devrait l'embrasser, la consoler, mais non, il est changé en pierre. Longtemps, il reste immobile, mutique. « Il faut que je sorte », dit soudain une Johanna, et ensemble, les deux femmes se lèvent, ouvrent la porte-fenêtre, se précipitent sur le balcon qui donne sur la rue, et Abby les suit. Les voici sous le soleil, les yeux rougis, à reprendre leur souffle. Johanna a toujours cru au bienfait du dehors. Elle n'a jamais douté que le vent, le ciel, les nuages apportaient des réponses comme les cigognes des bébés. Enfant, lorsque le monde lui résistait, elle sortait chercher la paix dans le parc au coin de West et de Providence. Elle courait à perdre haleine sur le chemin bitumé jusqu'à ce que ses poumons explosent, qu'elle doive s'allonger le dos dans l'herbe rase, les bras en croix, le cœur battant. L'univers entrait en elle à chaque inspiration, et peu à peu, elle en reprenait possession. Mais les érables miroitants de Carroll Street n'ont aucune solution simple à leur offrir. Une Johanna se mouche, respire lentement, cherche le calme, l'autre s'essuie les yeux. « Je ne veux pas te voler ta vie, » dit l'une en reniflant. « Moi non plus. Je ne veux pas perdre la mienne non plus. » Une Johanna se tourne vers le jeune homme. « Abby, dis quelque chose. » Il sursaute. Son regard ne cessait d'errer d'une Johanna à l'autre. Seul un ventre discrètement arrondi permet de les distinguer. « Je suis désolé, je suis dépassé, je suis incapable de savoir quoi dire. » Il baisse les yeux, considère le tatouage sur son poignet, 2 palmiers sur une dune. Hommage à son grand-père, à son histoire. Enfant, il avait vu le mot « oasis » sur l'avant-bras du vieillard, demandé la raison du mot tatoué, et la réponse avait été « Tu vois, Abby, mon grand, l'oasis, cela signifie l'eau au cœur du désert. C'est un lieu de paix et de partage. Alors je l'ai fait tatouer quand j'avais 20 ans. Parce qu'il symbolise l'espoir d'une nouvelle vie ici, après la guerre. C'est un porte-bonheur, tu comprends, Abby? Ein Glücksbringer. » Le petit Abby avait répété le mot « Glücksbringer ». Et cela fascine encore le dessinateur que l'allemand n'ait qu'un seul mot « Glück » pour bonheur et pour chance. Le malheur, c'est peut-être seulement un méchant manque de peau. Le jour des 11 ans d'Abby, son grand-père lui avait appris que non, le mot tatoué n'était pas l'oasis qu'il avait cru lire à l'envers, que c'était 51540, son numéro de déporté à Auschwitz. Au lendemain de la mort du vieil homme, Abby a fait dessiner sur sa peau, au même endroit, cette oasis dont lui seul connaît le secret et où il trouvait de la force. Mais les deux femmes le regardent et ce tatouage qu'il fixe n'est plus un refuge. On s'est marié alors? Et on vit ici? Demande Johanna June. Comment était notre mariage? Ni ce on, ni ce notre ne sont prémédités, mais ils installent dans la langue même une forme d'équilibre entre Johanna Woods et cette Johanna Wasserman qui porte l'enfant d'Abby. Elle n'est pas l'intruse perverse, elle est la malheureuse oubliée. Une brise d'été fait vibrer l'argent des feuilles. Le bruit des voitures se fait moins présent. Les vents viennent bien de quelque part quand ils soufflent. Pourquoi il lui vient ce poème? Johanna l'ignore. Je ne sais pas ce qu'on va faire juridiquement. hasard de la première. « Il n'y a pas de jurisprudence, » va répondre l'autre. Et aussitôt, elle pense « Putain, c'est vraiment tout moi de réfléchir aussitôt aux questions légales. » Il lui revient aussi le procès Martin-Guerre en France au XVIe siècle. Un usurpateur, Arnaud du Til, revient dans le village natal de Guerre, se fait passer pour lui, vit avec sa femme et convainc tous ceux qui veulent bien l'être qu'il est celui qu'il prétend être. Mais par un coup de théâtre, Martin-Guerre revient et l'imposteur finit sur la potence. « À quoi bon en parler ?» songe Johanna, puisqu'elle devine qu'au même instant la même référence vient à l'autre. Elle murmure « Ça n'a rien à voir. » Le silence s'installe. Un coup discret sur la vitre les fait tous les trois se tourner vers les agents du FBI qui, timides ou intimidés, n'osent pas se rendre sur le balcon. « Faites-vous un café !» lance Abby pour s'en débarrasser. « Et Hélène ?» demande Johanna June. « La maladie ?» « Ça va. Elle est en traitement aujourd'hui. Et j'ai pris un poste chez Denton & Lovell. Je suis en charge de Valdeo pour le procès de l'heptachlorane. »
Non. Avec cette ordure de Prior? J'ai fait ça?
Ce n'est pas une ordure, c'est un cliché parce qu'il est milliardaire. Johanna June le sait. C'est l'absurde évidence. Bien sûr, elle aurait fait la même chose pour payer le traitement, mais aussi parce que tout de même c'est Denton & Lovell. Sans réfléchir, elle tend sa main à Abby, qui la prend sans réfléchir non plus. Devant le geste, l'autre Johanna ne trouve plus d'air à respirer. La douleur broie sa poitrine. Sa sœur sera toujours sa sœur, mais elle n'a qu'un seul habit. Il est des amours qui s'additionnent, d'autres qui ne se diviseront jamais. « C'est affreux, » dit Abby, en prenant aussi sa main. « Je ne vous aime pas toutes les deux. J'aime une seule femme qui s'appelle Johanna. » Il ne peut continuer. Les larmes qui faisaient briller ses yeux se mettent à couler, sans retenue, autant de larmes.